Vous êtes sur RTL.
Merci d'écouter RTL, il est 12h30.
RTL.
Tu sais qui est devant la porte? Le chef Etchebest.
Le journal inattendu.
Allez les mecs, dans deux minutes j'y vais. Allez, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai cuisinier qui travaille. Vous allez voir.
Attention, le feu va être lâché, messieurs.
Allez.
12h30, 13h30.
Du café, parfait. Je vais en avoir besoin, du café.
Le journal inattendu de Philippe Etchebest avec Vincent Parisot sur RTL.
J'ai demandé une volaille avec de la sauce au cèpe. J'ai une espèce de purée épaisse qui ressemble à du gerbos. Présentée n'importe comment, avec une feuille de salade crevée, avec un bout de tomate. Et je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars.
Non mais c'est moi qui vais vous cuisiner pendant une heure. Bonjour Philippe Etchebest. Et merci de troquer votre toc pour la casquette de rédacteur en chef de Journal Inattendu dans ce contexte, c'est vrai, un peu tendu du coronavirus. Mais justement, on va se détendre. Entre deux mercredis, entre deux épisodes de Top Chef sur M6, dont la 11e saison a commencé le mois dernier. Donc on va parler de cette émission devenue culte, comme des cauchemars que vous avez fait vivre en cuisine, tout en poursuivant vos rêves, votre rêve gastronomique aujourd'hui, notamment avec votre restaurant du Grand Théâtre de Bordeaux. Mais vous avez sans doute des envies d'aventure et c'est certain, vous avez le goût des pôles. Votre reportage va nous emmener tout à l'heure dans le Jura, découvrir l'espace des mondes polaires à Prémanon. Et puis votre invité, lui, il aurait bien pu y laisser sa peau sur le pôle, dans l'Arctique. Mike Horn sera avec nous après 13h. Le reste, eh bien le reste est à découvrir avec des fourchettes ou des baguettes et les oreilles, car les musiques et les extraits de vos films sont vos choix. Vous êtes à la tête de ce journal inattendu, mais avant cela, avant les infos que vous pourrez commenter si vous le souhaitez, il faut commencer par nous parler de vous. Philippe Etchebest, vous tirez le portrait.
Alors je commence. Oui. Alors, j'ai écrit un petit truc vite fait. C'est pas facile de faire son autoportrait.
Dans le train, en venant de Bordeaux ce matin.
Alors exactement. Alors, j'ai mis, je viens d'avoir 53 ans, de taille normale, plus beaucoup de cheveux sur le caillou, mais assumé, une barbe grisonnante bien fournie. Je ressemble plutôt à un cube qu'à une asperge. Avec une mâchoire carrée, plutôt bulldog que lévrier. Vous l'aurez compris, j'ai plutôt un physique sécurisant ou qui peut faire peur, c'est selon. Voilà.
Le bulldog, c'est ça finalement, c'est un animal qui finalement inquiète et puis qui est une crème.
Mais oui, moi j'en ai une, en plus j'ai un petit bulldog français à la maison, ouais. Et c'est mignon comme tout, c'est gentil comme
quand
tout.
Quand on gratte un peu Etchebest, on trouve de la crème à l'intérieur comme dans certains desserts.
Oui, hein. Comme je dis, je suis pas quelqu'un de méchant hein, sur le fond, après je dans ce qu'on peut voir, on parle toujours des coups de gueule, tout ça, c'est toujours, il y a toujours une action, mais un intérêt aussi derrière et une mission à faire, c'est d'aider des gens, et ça je trouve que c'est plutôt bien. Après, non, je suis pas quelqu'un de foncièrement méchant, bah, j'aime pas qu'on m'emmerde, ça c'est sûr, mais après pour le reste, je suis plutôt sympa.
Bon, je vais tâcher de pas vous emmerder. On a 57 minutes encore, on commence évidemment par l'actualité, essentiellement la crise sanitaire du coronavirus. À l'instant, le ministère de la Santé donne une information importante, la prise de médicaments anti-inflammatoires serait un facteur d'aggravation de l'infection. Nos explications dans un instant. La France se met au ralenti avec la mise en place d'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. C'est lundi que la mesure la plus spectaculaire, fermeture des établissements scolaires et crèches, entrera en vigueur. Il faudra aussi s'attendre à des perturbations dans les transports, dont les personnels, évidemment, doivent aussi garder leurs enfants. Comment les Français vivent-ils cette situation? En ce début de week-end, on ira sur un marché et puis on va revenir sur une mesure souvent difficile à accepter, l'interdiction de visite dans les EHPAD et la limitation des contacts avec les personnes de plus de 70 ans. C'est indispensable, assure le patron du SAMU. Demain, ce sera le premier tour des municipales. Des consignes ont été données pour accueillir dans les bureaux de vote les électeurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Limitation des files d'attente, gel hydroalcoolique, stylo à usage unique notamment. À noter parmi les annonces de la matinée, celle d'Apple de fermer tous ses magasins dans le monde, sauf en Chine. Tous les ports autour de la métropole de Nice sont désormais interdits aux navires de passagers et l'Arabie Saoudite suspend ses vols internationaux. À la une également, le pataquès à la Fédération des Sports de Glace qui doit élire son ou sa présidente pour succéder à Didier Gayeguet démissionnaire. Ils étaient quatre candidats, mais il ne reste plus que Nathalie Péchala. Car voilà, les autres ont dénoncé ce matin le non-respect de la limite des 100 personnes imposée par les autorités contre le coronavirus. On ira sur place pour y voir plus clair. Puis le dernier défi de Martin Fourcade, le quintuple champion olympique de biathlon tire sa révérence. Ultime course aujourd'hui en Finlande avec peut-être un huitième globe de cristal. Je rappelle évidemment qu'il n'y aura pas de match de rugby, pas de France-Irlande, et ça vous désole. Ah oui. Je le sais, vous auriez dû aller au match, Philippe Etchebest. Le temps, Valérie Quintin, c'est un classique, des nuages au nord, du soleil au sud.
Exactement, du soleil pour une très très large moitié sud, puisque ça concerne aussi la Bourgogne et la Franche-Comté, pour les régions plus au nord, entre les Ardennes, le Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore le nord-ouest, là c'est beaucoup plus nuageux, avec des averses qui vont traverser toutes ces régions. Elles sont assez localisées, assez ponctuelles aussi, et d'ailleurs la Bretagne et la Normandie pourraient même récupérer un petit peu de soleil cet après-midi. Dans le sud, on notera quand même un peu de grisaille dans le Bordelais et au pied des Pyrénées, et ça va tarder à se lever. Alors c'est pas du mauvais temps, ce sont juste des nuages bas, comme il peut y avoir souvent dans la région, qui ont tendance à s'accrocher, et j'ai bien peur qu'il reste là une grande partie de la journée. Les températures cet après-midi, elles sont stables, 11 degrés à Metz, à Dunkerque, à Strasbourg, 12 à Amiens, 13 à Paris et Périgueux, 14 à Mâcon et Chambéry, 17 à Avignon et 20 degrés à Toulon.
Merci, vous laissez votre place libre pour celui qui présentera la météo à 13h. Philippe Etchebest, invité du journal Inattendu.
Le journal Inattendu sur RTL.
Et avant de voir comment la France se prépare à la mise en œuvre des mesures de confinement pour les écoles, pour les entreprises, arrêtons-nous tout d'abord sur cette information qui vient d'être rendue publique par le ministère de la Santé. Sophie Jousselin, elle concerne les anti-inflammatoires.
Oui, dans ce message posté sur Twitter, Olivier Véran alerte sur la dangerosité des anti-inflammatoires en cas de coronavirus. En réalité, ce risque existe pour toutes les maladies infectieuses et pas seulement pour le Covid-19. Selon les spécialistes que nous avons contactés, la prise d'anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, par exemple, en cas de maladie infectieuse, quelle qu'elle soit, a tendance à diminuer la réponse immunitaire et empêche ainsi l'organisme de se défendre contre la maladie. Le ministre de la Santé l'a donc rappelé ce matin. Olivier Véran conseille, si vous êtes sous traitement anti-inflammatoire et avez aussi des symptômes proches de ceux du Covid-19, de demander conseil à votre médecin. Il est préférable alors de prendre du paracétamol.
Sophie Jousselin, merci pour ces explications. C'est donc un week-end de transition qui commence pour des millions de Français. Transition avant de devoir, dès lundi, eh bien garder ses enfants à la maison et souvent travailler de chez soi, en tout cas pour ceux qui le peuvent. 850 000 enseignants vont devoir assurer les cours à distance. L'éducation nationale met à disposition des enseignants les ressources du CNED, mais tout ne sera vraisemblablement pas en place dès lundi. L'éducation, le travail, mais aussi la culture, les transports, le sport, autant d'activités au ralenti ou à l'arrêt complet, face à un bilan qui menace évidemment de progresser fortement dans les prochains jours, à l'image de ce qu'a connu l'Italie. Hier soir, Olivier Véran a annoncé 800 nouvelles contaminations et 18 morts supplémentaires en 24 heures. Le Premier ministre avait annoncé par ailleurs, je vous le rappelle hier, la limitation des rassemblements à 100 personnes contre 1000 au auparavant. Les consignes sanitaires restent bien sûr en vigueur. Pas d'embrassade, ni de serrage de main, garder une distance de sécurité d'un mètre. Mais concrètement, dans la vraie vie, comme on dit, est-ce que ces mesures sont respectées? Eh bien, on est allé voir comment ça se passe. On est allé ce matin sur un marché à Saint-Chamond, dans la Loire. Reportage Nerissa Emani.
C'est bien simple, le mot coronavirus est sur toutes les lèvres, devant toutes les étals des marchands, comme celle de Sonia.
Mais aujourd'hui, c'est de la folie, on voit que les gens ont peur.
Le marché est vide, il n'y a personne. Pour un samedi, aujourd'hui, c'est moins 50% minimum. Regardez, les allées, elles sont désertes.
Mais pour autant, pas de changement de comportement pour Sonia, car si elle porte des gants...
C'est pour mes beaux ongles.
Ah, c'est pas par rapport au coronavirus?
Non, pas du tout.
Moi, j'en ai toujours, toute l'année, des gants.
Et même chose chez son voisin Hakim.
Mettre des gants pour servir, non, ça sert à rien. Moi, je touche que l'emballage, je touche pas le fruit.
Pourtant, chez les clients, tout a changé. Edith, 62 ans, porte des lunettes de soleil. Son écharpe lui couvre la bouche et gare à ceux qui l'approchent.
Eh bien déjà, ne vous tenez pas trop près de moi.
On essaye de faire attention, de respecter toutes les consignes et de sortir pour le strict nécessaire pour la nourriture. J'essaye d'aller le moins possible dans les magasins.
Plus loin, une dame tente une bise à son amie, mais celle-ci refuse.
Je lui ai dit, tu restes bien un mètre. Hein. Je lui ai pas fait la bise, j'ai pas touché. Hein. J'ai toujours mon gel, mes lingettes.
Et mon téléphone, pareil, je désinfecte souvent.
Des réflexes désormais permanents chez cette habitante de Saint-Chamond qui assure qu'elle ira demain voter avec gel et lingette.
Voilà donc pour cette photo du Marseillais de Saint-Chamond ce matin. Moins 50%. Ça va avoir des conséquences évidemment très lourdes.
Ah mais bien sûr, c'est évident pour tout le monde. Je crois que tous les secteurs sont touchés. Après, je pense qu'il faut être vigilant, il faut écouter et respecter les consignes.
Vous y arrivez à ne pas serrer la main à vos copains?
Oui, absolument. J'ai l'habitude de serrer la main à chaque fois, même de mes collaborateurs. Oui.
Vous êtes assez tactile.
Oui, je suis très tactile justement. Ouais. Et moi, quand j'arrive dans le restaurant, je serre la main à tout le monde. Donc maintenant, effectivement, on ne le fait plus. Tout le monde le comprend et je crois qu'il faut, il faut pas céder à la panique non plus, mais à respecter les consignes qui nous sont données. Voilà, c'est tout.
Alors, il y a une consigne qui ne souffre pas d'exception, c'est les visites aux personnes âgées dans les EHPAD. Elles sont totalement interdites. C'est d'ailleurs souvent un crève-cœur dans les familles. Pourtant, c'est une mesure indispensable, comme l'a rappelé ce matin sur RTL Pierre Carli. Écoutez-le, il est le patron du SAMU de Paris.
Ces mesures, qui paraissent des mesures extrêmement dures en termes relationnels et dont on sait qu'elles ont un coût dans la vie sociale et un coût dans le pronostic de l'évolution de leur maladie, il faut le prendre en compte. Mais la règle générale est que si le virus rentre dans une communauté de personnes âgées, il peut faire des ravages. Et donc, il faut défendre cette position et il faut essayer de trouver des solutions innovantes. Alors, un petit nombre de personnes qui soient protégées et qui viennent les voir, qui aient été choisies, peut-être changer aussi la façon de soigner les gens et d'avoir avec eux un contact des soignants qui, eux, sont présents par nécessité, qui prennent peut-être un peu plus de temps dans le contact parce qu'il n'y aura pas d'autre personne qui va venir aujourd'hui. Se mettre en contact avec le téléphone, que quelqu'un parle, qu'il y ait une voix, qu'il y ait une présence. Essayons sur ces points-là, mais je vous assure, ne laissons pas rentrer ce virus au contact de ceux qui sont sa cible privilégiée.
Voilà, Pierre Carli, le patron du SAMU de Paris, vous voulez réagir?
Oui, ça paraît tout à fait logique et normal de faire ça, de protéger les gens les plus fragiles. Ouais. C'est sûr, c'est pas évident d'isoler comme ça des personnes, mais si c'est pour le bien de tout le monde et surtout pour eux, je crois que c'est important de le faire.
Je vous rappelle que les élections municipales ont été maintenues pour le premier tour demain, que normalement tout sera mis en œuvre dans les bureaux de vote, marquage au sol pour éviter les files d'attente. Les électeurs pourront signer avec un stylo à usage unique. Il y aura évidemment du gel hydroalcoolique. Et puis après dimanche, après les élections, il y aura lundi le casse-tête pour les parents comme pour les salariés et les entreprises. Le ministre de la Santé a toutefois précisé que les structures de garde qui accueillent moins de 10 enfants ainsi que les assistantes maternelles vont pouvoir poursuivre leurs activités. Et puis comme les employés de la SNCF, de la RATP ou des régies des transports urbains ont aussi des enfants à garder, eh bien on attend beaucoup d'absentéisme, au moins 20% d'absentéisme à la SNCF attendu dans les prochains jours. Ça veut dire qu'il y aura des perturbations à la RATP et à la SNCF. Des prévisions seront communiquées dans les prochaines heures. À noter également la décision d'Apple de fermer tous ses magasins dans le monde en dehors de Chine, et ça au moins jusqu'au 27 mars. Et puis cette déclaration de Martin Hirsch, le patron de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans un entretien au Monde, il dit que son institution n'a jamais été confrontée à un phénomène du tenorpleur. Il précise que 900 tests de dépistage ont été réalisés hier et que 20% étaient positifs. Dans ce contexte, Philippe Etchebest, est-ce que vous préparez à l'idée de peut-être devoir fermer le restaurant à Bordeaux?
Je crois qu'on se prépare à tout de toute façon. Rien n'est impossible. Donc, on a déjà vu avec les équipes et les préparer à ça, déjà préparer à des mesures.
Il y a déjà vous avez enregistré une baisse.
On a une baisse d'activité, bien évidemment. Elle est réelle. Et après, ce qui nous conforte finalement dans ce qu'on a fait, et puis le fait d'avoir échangé avec tous nos employés, c'est d'avoir la force et l'esprit d'équipe qu'on peut avoir, et ça aide énormément, et ça permet de soulever des montagnes. Donc on sait que ça va être difficile, mais moi j'ai des super collaborateurs, vraiment j'ai cette chance là et que tous ensemble on va y arriver quoi qu'il se passe. J'ai pas l'habitude de reculer, on va avancer, on trouvera des solutions, on fera des choses de toute façon. Voilà, il faut pas se laisser abattre non plus.
Ouais. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours, je peux vous le dire, parce que c'est un peu la tendance forcément avec toutes ces décisions qui sont prises. Ce qu'on va faire, c'est marquer une pause. Dans un instant, évoquer l'élection du remplaçant de Didier Gayaguet, qui est parasité par le virus. À tout de suite.
Le journal inattendu de Philippe Etchebest, avec Vincent Parisot sur RTL.
Je vous le disais, le coronavirus va même se cacher là où on ne l'attend pas forcément. Je veux dire au cœur même de l'Assemblée Générale de la Fédération Française des Sports de Glace qui doit désigner aujourd'hui le successeur de Didier Gayaguet, président démissionnaire. Il y avait 4 candidats en lice. Il ne reste plus que Nathalie Péchala parce que les 3 autres, eh bien, ont préféré jeter l'éponge. Je crois, Isabelle Langer, qu'ils ont dénoncé le non-respect des mesures sanitaires face au coronavirus. C'est ça, vous êtes au siège de la Fédération?
Oui, c'est un sacré pataquès, hein. Depuis ce matin, il y a d'abord eu un communiqué, effectivement, de 3 candidats qui annonçaient retirer leur candidature, estimant que la fédération, en maintenant ses élections, ne se conformait pas aux directives présidentielles. 2 de ces candidats sont quand même venus exposer leur programme, tout en précisant qu'ils ne cautionnaient pas cette élection qui aurait dû être reportée. C'est le cas de Michel-Ange Marie-Calixte.
À situation exceptionnelle, remède exceptionnel, tout simplement. Si demain on apprenait que plusieurs personnes d'ici ont le coronavirus, on va faire quoi?
Donc vous avez estimé que retirer votre candidature, c'était le mieux? Vous êtes quand même venu.
Pour l'instant, je ne peux pas parler de ça. Et tout à l'heure, vous allez avoir le résultat des élections. Et peut-être que vous allez voir qu'il y a une surprise.
Gilles Joigny, ancien champion de short track, est lui intervenu par téléphone. Il serait bloqué dans un immeuble, il y aurait 4 cas de coronavirus. Il voulait retirer sa candidature, mais cela a été refusé car il aurait dû le faire au préalable par écrit. Il y a donc 2 candidats, Gilles Joigny et Nathalie Péchala. Le vote a eu lieu, le quorum est respecté, il y a assez de votants, le dépouillement est en cours. Le résultat devrait être connu vers 13h30.
Merci Isabelle Langer. On verra effectivement si Nathalie Péchala est ou non la nouvelle présidente de la Fédération Française des Sports de Glace en début d'après-midi. Sachez aussi que c'est un grand jour pour Martin Fourcade, le quintuple champion olympique de biathlon, va tirer sa révérence aujourd'hui. Dernière course à Lahti en Finlande. C'est l'ultime course de la saison, ça veut dire qu'il peut encore décrocher un 8e globe de cristal après 5 titres olympiques. Hein. Quand même pas mal.
Le reportage inattendu.
Alors, votre reportage inattendu, Philippe Etchebest, est vraiment inattendu. Vous avez choisi de nous faire découvrir un lieu étonnant. Je propose de l'écouter et d'en parler ensuite.
Ouais, okay.
Alors,
ouais.
On va à Prémanonce, dans le Jura, près de la station des Rousses, 1000 mètres d'altitude, à l'espace des mondes polaires. Musée unique en France, créé il y a 3 ans et qui nous raconte l'histoire et la vie des pôles arctiques et antarctiques. C'est envoûtant. Reportage Frédéric Perruche.
Dès l'entrée, on est saisi par l'atmosphère des lieux, le craquement des icebergs qui défilent sur les parois. C'est un univers blanc. Bienvenue au pays des mondes polaires. Stéphane Niveau, directeur.
C'est quoi le pôle pour une personne qui n'a jamais été au pôle nord ou au pôle sud, en tout cas dans les régions arctiques ou antarctiques? Eh bien, l'approche d'un visiteur, c'est d'imaginer que c'est en effet tout blanc. C'est très apaisant. L'idée, c'est qu'en effet, on se pose et on prenne le temps de regarder, éventuellement de lire, de s'asseoir, d'écouter. Vous êtes quelque part entre le nord et le sud.
L'Arctique et l'Antarctique, 2 pôles que tout oppose.
C'est pas la même glace, on n'a pas la même faune. D'un côté, on n'a que de la glace. De temps en temps, apparaît un peu de relief, mais on est vraiment dans un univers complètement dominé par la glace, alors que de l'autre côté, Arctique, c'est un univers qui est habité. Petit village de Sacracre, sur la côte ouest du Groenland, avec ses petites maisons de toutes les couleurs, rouge, verte, bleu. Derrière, il n'y a pas trop de glace. On voit bien un relief très minéral. Mais il y a de l'herbe verte au premier plan.
Poussé par le vent polaire, on découvre un gigantesque ours blanc naturalisé, la faune, la flore, la vie des Esquimaux ou l'histoire de la banquise.
La banquise couvre une surface de 15 millions de kilomètres carrés en hiver, contre seulement 4 millions en été. Depuis 20 ans, la banquise estivale a vu sa surface diminuer de 40% et son épaisseur de moitié.
La formation des banquises, c'est des choses que je connaissais pas aussi bien, quoi, mais qui m'a beaucoup intéressée. C'est un bel espace, tout blanc, comme la banquise, comme la glace, mais avec des architectures assez intéressantes, cubiques, dans tous les sens. Donc c'est un beau lieu en même temps, c'est bien.
Évidemment, un homme est très présent, l'incontournable Paul-Émile Victor.
Glaciologie, lorsque cette science sera devenue adulte, il sera possible aux glaciologues, probablement, de faire des prévisions de changement climatique à longue échéance. C'est-à-dire de dire cette année que l'an prochain, à tel endroit du globe, il y aura déluge ou sécheresse. Vous imaginez ce que ça peut être important.
Une exposition est consacrée au mythique explorateur disparu il y a 25 ans avec quelques pièces uniques.
C'est une pièce absolument splendide, donc un traîneau en bois de 3 mètres de longueur avec la particularité, c'est d'avoir des patins en aluminium. On voit aussi les freins, un frein qui est à l'arrière. Donc en fait, ce traîneau a été utilisé par Paul-Émile Victor pour traverser la calotte glaciaire du Groenland en 1936, 1000 km en 40 jours.
Et pour bien finir la visite, pas en traîneau mais en patin, une patinoire noir en glace naturelle fait le bonheur des petits et des grands.
Voilà, reportage glacé signé Frédéric Perruche. Je sais que ça vous fascine et je sais même que vous êtes allé au pôle Nord l'été dernier avec des scientifiques.
Oui, absolument. C'était un voyage extraordinaire et ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup sensibilisé. Moi et mon épouse, vraiment, on était, comme il le disait, on est admiratif, on regarde, on observe, on écoute. On est dans une espèce de monde à part et qui pourtant génère et qui équilibre l'ensemble de notre planète, quoi. Mmh. C'est hallucinant et en même temps aussi ça fait peur. On prend conscience de certaines choses. On a l'impression d'être impuissant.
Le réchauffement climatique, ils vous ont montré les effets, clairement.
Bien sûr, très clairement. Surtout qu'on était avec des scientifiques qui faisaient ces expéditions depuis pratiquement 30 ans. Ouais. Donc ils nous disaient, en fait, la glace, elle était là. Maintenant, elle est là-bas. Mais c'est incroyable. Mmh. Et une fois de plus, c'est alarmant. Mmh. C'est incroyable. On a passé un moment exceptionnel avec des gens passionnés et qui nous ont fait vivre des moments incroyables.
Et des rencontres avec un ours.
À peine 50 mètres, vraiment, on a eu cette chance-là de pouvoir observer un ours pendant pratiquement une heure, qui nous a laissé faire, qui nous a accepté, comme on disait, et qui a fait le show pendant une heure devant nous.
Allez, avant de passer en cuisine, tiens, je vous propose de nous y projeter un instant avant de marquer la pub en cuisine avec Lino Ventura, Francis Blanche, Robert Dalboin. C'est avant qu'il ouvre la bouteille de bizarre.
Hein, ah oui.
Avec au passage une réplique devenue culte.
Ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est une devise que vous avez toujours en tête.
Je le dis souvent. C'est vrai, je le dis souvent, malheureusement. Mais j'adore. Puis j'adore ce film. Je crois que je suis pas le seul, de toute façon. Non, c'est un film culte, avec des expressions incroyables. Mais tellement vrai.
Allez, on marque une courte pause et à tout de suite sur RTL. On ouvre la rubrique Top Chef avec un chef au top, Philippe.
Le journal inattendu sur RTL. Philippe Etchebest, Vincent Parisot.
On envoie du lourd pour commencer. Hein. Philippe Etchebest, il faisait de la air batterie finalement dans le studio.
Je le connais par cœur, ce morceau.
On parlera batterie et de votre groupe tout à l'heure, mais AC/DC, c'est un groupe fétiche qui vous accompagne depuis longtemps.
Oh bah oui, depuis mon adolescence, forcément. C'est un groupe de rock mythique. Vraiment, vraiment.
C'est pour ça que vous avez en permanence les doigts dans la prise, comme on dit, qu'on a toujours l'impression que vous êtes branché sur 220.
Peut-être.
Ça vous donne aussi cette énergie, la musique, le rock, le métal,
pas que. Hein. Ouais, j'ai un répertoire musical qui est extrêmement varié. Mmh. Ça peut aller de l'opéra au Pink Floyd, au hard rock, aux Beatles. Il y a plein de choses que j'adore dans la musique.
Mais la musique vous accompagne en permanence.
Oui, j'aime la musique, absolument.
Allez, showman.
Vas-y, joue le putain, vas-y, fais les misérables, là, il faut y aller.
Faut
ceux du Zola, la ferme, la grand-mère, avec la blouse grise qui dimanche péniblement, traîne dans la pâte, vient faire son poulet rôti. Il faut qu'il chiale, le chef, à la fin. Hein? Il faut qu'il chiale, putain.
Le dimanche, on fait la quête.
De l'émotion.
Voilà, la 11e saison de Top Chef a donc démarré il y a un mois maintenant avec à vos côtés trois autres chefs, Hélène Darroze, Michel Sarran, Paul Perret, et puis des candidats qui, comme le veut le principe de Top Chef, sont déjà des cuisiniers quand même très confirmés, pas des amateurs. Certains sont même déjà étoilés, je crois. David Gallienne, il a une étoile.
Oui. Il y a quand même un amateur dans l'équipe, puisque c'est moi qui l'ai recruté dans l'objectif Top Chef.
Ouais,
Gratien, qui était comptable et qui veut faire de la cuisine. Mais sinon, les mecs ont un sacré niveau, quoi. Hein. Mm. Sacré niveau.
Et s'il ne gagne pas, par exemple, David Gallienne, qui a une étoile au Michelin, c'est quand même un mauvais coup pour le guide Michelin ou pas?
Non, c'est pas forcément un mauvais coup, d'autant plus que c'est déjà arrivé qu'on ait eu des candidats étoilés qui n'ont pas été au bout des preuves. Ouais. Top Chef, c'est un concours à part quand même. Hein. On peut être très très bon cuisinier, avoir un restaurant étoilé et finalement perdre un peu ses moyens dans le cadre d'un concours.
Sur une épreuve, parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a la tension.
Il y a plein de choses. C'est un marathon, Top Chef, c'est un marathon culinaire. Où il faut savoir gérer la pression, il faut avoir un gros mental et ça fait toujours le yo-yo, quoi. Je veux dire, ça monte, ça descend. Non, c'est pas facile.
Vous avez vu des candidats s'effondrer ?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, les candidats qui voulaient arrêter.
Et là, c'est la tête qui...
C'est là que ça se passe. Ouais. Et c'est là que j'interviens.
La saison 11, c'est un bon cru.
Très, très bon cru. Ouais. Oh, très bon. On a des candidats qui sont extrêmement sympathiques. Mais à chaque fois, je crois qu'on on découvre des personnalités, des cuisiniers et cuisinières talentueux qui même nous amènent des choses à nous, hein, chef. Ouais. Hein, bien sûr, il y a un vrai échange.
Vous tissez des relations avec eux?
Ah oui, absolument, ouais, bien sûr.
Et vous travaillez peut-être par la suite dans votre restaurant avec...
Alors, moi j'ai recruté des jeunes apprentis dans Objectif Top Chef, bien sûr. Et puis, j'en ai encore qui vont certainement venir dans mon nouveau projet, donc c'est plutôt sympa.
Saison 2020, 11e saison. Il y a peu d'émissions qui ont une telle longévité. Comment vous l'expliquez? Parce que les Français, ils aiment ça. Ils aiment...
C'est la culture des Français de manger, de toute façon, hein, la gastronomie. Voilà, fait partie de notre patrimoine. Après, c'est bien que ça dure. Je saurais pas l'expliquer. Cet engouement, mais en tout cas, si ça donne envie aux gens de recuisiner, de prendre goût à acheter de bons produits et à faire des choses, je trouve que c'est une belle émission finalement pour ça.
Alors à mercredi prochain, puisque c'est évidemment tous les mercredis soirs sur M6. On va marquer une pause, mais je vous offre un petit chocolat peut-être, parce que vous nous offrez ce monologue de fin de Forrest Gump avec Tom Hanks.
Ah oui.
Tom Hanks qui est d'ailleurs en quarantaine en Australie. Actuellement, après avoir contracté le coronavirus. Quelques mots, une image pour nous dire que la vie nous réserve bien des surprises. Allons-y.
Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Eh bien, continuons à la déguster, cette boîte de chocolat, avec Philippe Etchebest et son journal inattendu. Il est 13h, on marque une pause, rappel de l'info, à tout de suite. 13h02.
Le journal inattendu de Philippe Etchebest.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Une actualité essentiellement dominée par la crise sanitaire du coronavirus. Le ministère de la Santé annonce que la prise de médicaments anti-inflammatoires est un facteur d'aggravation de l'infection et donc recommandé d'utiliser du paracétamol. Le bilan est désormais en France de 3661 cas confirmés, 79 décès. Martin Hirsch, le patron de la PHP, reconnaît dans une interview au Monde que les hôpitaux parisiens n'ont jamais été confronté à un phénomène d'une telle ampleur. 20% des tests réalisés hier se sont révélés positifs. La France en tout cas se met au ralenti avec la mise en place de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. C'est lundi que la mesure la plus spectaculaire, la fermeture des établissements scolaires et des crèches entrera en vigueur. Il faudra s'attendre à des perturbations dans les transports dont les personnels doivent aussi garder leurs enfants. Demain, le premier tour des municipales. Des consignes ont été données pour accueillir dans tous les bureaux de vote les électeurs avec les meilleures conditions sanitaires possibles. Limitation des files d'attente avec marquage au sol, gel hydroalcoolique à disposition, stylo à usage unique également. À noter parmi les annonces de la matinée, celle d'Apple de fermer tous ses magasins dans le monde, sauf en Chine. Par ailleurs, tous les ports autour de la métropole de Nice, il y en a 8, seront désormais interdits aux navires de passagers. Et puis l'Arabie Saoudite annonce qu'elle suspend tous ses vols internationaux. À la une également, le pataquès à la Fédération Française des Sports de Glace qui doit élire son ou sa présidente pour succéder à Didier Gayaguet démissionnaire. Ils étaient 4 candidats. Mais il ne reste plus que Nathalie Péchala en lice car les autres ont dénoncé le non-respect de la limite des 100 personnes imposée donc pour lutter contre le coronavirus. On devrait en savoir plus d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure sans doute. Et puis le dernier défi de Martin Fourcade. Oui, il y a encore une actualité sportive. Mais ça se déroule en Finlande avec l'ultime course aujourd'hui en Finlande de Martin Fourcade qui a annoncé sa retraite. Le quintuple champion olympique de biathlon tire sa révérence. Il a peut-être la possibilité de décrocher un 8e globe de cristal. Et puis alors, pour le temps, c'est à vous de jouer, Philippe Etchebest. Vous êtes un top chef, c'est sûr, mais vous êtes aussi Monsieur Météo.
Eh bien, on va y aller. On va changer de costume. Alors, le temps sera souvent ensoleillé au sud de la Loire cet après-midi, avec toutefois un ciel plus chargé au pied des Pyrénées, ainsi qu'entre la Côte d'Azur et la Corse. Sur la moitié nord, les nuages et les pluies défileront d'ouest en est, entrecoupés de rares éclaircies. Les températures seront comprises entre 10 et 20 degrés des Ardennes au Var. Il fera 13 degrés. degrés à Paris, Poitiers, Roux et Besançon, et 14 degrés à Bordeaux.
Voilà, à Bordeaux, voilà. Effectivement, à Bordeaux.
C'est là où il fait le meilleur.
Où vous vous sentez bien, où il y a votre restaurant au Grand Théâtre.
Au Grand Théâtre, la Brasserie, oui.
Et où vous avez vécu quasiment tout le temps. Vous êtes d'ailleurs passé par l'école hôtelière de Talence.
À Talence, bien sûr. J'ai grandi à Bordeaux. Mes parents avaient un restaurant basque, Cours de l'Isère, près du marché des Capucins. Ouais. Et donc, j'ai passé une partie de ma vie à Bordeaux,
et
effectivement.
Et vous voyez ailleurs ou pas?
Non. Non. J'aime Bordeaux, j'aime cette ville, je m'y sens très très bien, c'est pour ça que je m'y suis installé et j'ai encore des projets dans cette ville.
Même si vous aimez voyager et prendre la route.
Oui, oui absolument, je vois où vous voulez en venir.
Eh ben, on en verra là.
Le journal inattendu sur RTL, avec Philippe Etchebest et Vincent Parizeau. On the road again, on the road again.
On the road again, Bernard Lavilliers, votre choix, Philippe Etchebest. Comme ça, je me dis que vous devez beaucoup aimer Lavilliers. Il a un côté...
Bourlingueur.
Ouais, bourlingueur, c'est ça. Costaud.
Oui, aussi, avec une vraie personnalité.
Il a fait de la boxe, comme vous, d'ailleurs.
Ah, je ne savais pas. Ouais. Je ne savais pas. Je l'ai reçu au restaurant. Il est venu manger à la table d'hôte, la table gastronomique, en bas, là, en cuisine. Mais je ne savais pas qu'il avait fait de la boxe. Du tout.
Enfin, bon, Bernard Lavilliers, On the road again, c'était aussi taillé sur mesure pour notre invité, qui, malheureusement, n'est pas avec nous pour l'instant. C'est Mike Horn, qui devait d'ailleurs présenter une conférence au Grand Rex aujourd'hui, cet après-midi. Vous auriez dû y aller.
Oui, si effectivement il n'y avait pas eu de match, j'étais invité à aller voir sa conférence, mais du coup tout a été annulé.
Voilà, événement reporté au mois de septembre en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais parlons tout de même de lui. J'espère qu'il nous entend. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à établir cette liaison avec Mike Horn. Vous l'avez rencontré?
Oui, absolument. Ouais. J'ai rencontré il y a l'année dernière, ou il y a deux ans je crois, et on m'avait même branché pour que je fasse un truc avec lui. Il y a pas qu'il faisait une émission justement.
Ah bah bien sûr, à l'état sauvage. Il y avait Cap Horn, il y avait à l'état sauvage.
Il prenait une personnalité, il l'amenait avec lui.
Bah c'est ça.
Alors il m'a dit, il faut que tu viennes avec moi Philippe, il faut que tu viennes avec moi. Je dis oui Mike, il n'y a pas de problème, mais alors sans caméra.
Pourquoi?
Parce que j'aime ce genre de choses, j'aime bien le faire, mais vraiment à titre perso, c'est plus un défi personnel plus que de le montrer à travers la télé. Donc j'ai dit si on le fait tout, si tu veux tous les deux, mais il y aura pas de caméra.
Et vous avez, j'imagine, suivi ce qu'il a vécu cet hiver, là où vous étiez,
absolument,
au pôle Nord.
Ouais, non, mais c'est il s'en est sorti, bon sang, grand Dieu, tant mieux pour lui.
Juste un instant, parce qu'il devait être là, on devait lui faire écouter. C'est petit extrait sonore du moment où, après 3 mois de périple et où ils avaient entamé leur dernière journée de vivre, de nourriture, ils ont été récupérés par un bateau. Écoutez ça.
Hey guys!
Hello!
Ce sont des larmes.
Ce sont des
larmes. Et pourtant, ce personnage, il est si fort. Il paraît indestructible. Ce qu'il a vécu.
Je pense que quand on est à deux doigts de la mort, forcément, à mon avis, il y a une espèce de soulagement quand on voit arriver les secours, qui fait que voilà, on craque. Ça, c'est tout à fait normal.
Et ce qui est incroyable, c'est que 10 jours après.
Il était
sur le Dakar.
Il est fou.
Il était sur le Dakar.
Ce mec est fou.
Et c'est absolument.
C'est pour ça que je l'adore en fait.
Bon. Alors on le salue. Malheureusement, liaison difficile, voire impossible, avec Mike Horn. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, on y arrivera. Je voulais parler avec vous d'autre chose. Et je sais que ça vous tient à cœur. Ce sont les pompiers solidaires.
Ah oui.
Les pompiers solidaires, qui eux aussi sont des sacrés
baroudeurs parce qu'ils vont partout dans le monde.
Oui.
Et dans des pays qui en ont besoin.
Et qui en ont besoin. Ils vont aider des gens qui sont en difficulté, mais ça va de l'international, mais aussi au niveau national, hein, puisque quand il y a eu les problèmes là dans l'eau, d'inondation, il y a 2 ans, ils y sont allés. Mon épouse, qui est pompier solidaire aussi, est partie
avec eux.
Votre
épouse est pompier solidaire.
Oui, absolument, elle est active.
Alors, en quoi ça consiste alors?
En fait, c'est d'intervenir dans, suite à des catastrophes naturelles dans des zones mais partout dans le monde et même en France, donc de pouvoir rétablir l'eau en moins de 48 heures, de créer des puits, de créer des latrines aussi. Il y a des formations à l'hygiène et aussi au handicap. Voilà, moi ils m'ont demandé d'être parrain, il y a déjà plus de 50 ça.
Vous les aidez un petit peu?
Alors j'ai accepté d'être parrain à la seule condition que je puisse participer avec eux à des actions humanitaires.
Ouais.
Voilà, et je suis parti au Népal et au Togo déjà. C'était des expériences incroyables, expériences de vie incroyables. Et quand on revient de tout ça, on se dit que tout va bien, la vie est belle.
Et qu'on va bien en France. Et qu'on est
exactement.
Et qu'on est avec dans un pays qui
incroyable.
Tient
quel beau pays dans lequel on est et quelle chance on a d'être en France et de vivre en France. Il faut s'en rendre compte de tout ça. Mais vraiment.
Y compris en ce moment dans une passe difficile.
Mais bien sûr.
On voit que l'État est là.
Mais bien sûr. Mais bon sang, il y a des pays où les gens n'ont pas accès aux soins comme nous on peut l'avoir en France. C'est une réalité. Il faut prendre conscience de cette chance qu'on a. Tous les gens peuvent se faire soigner de manière gratuite aujourd'hui. Vous allez aux États-Unis ou dans d'autres pays, les gens n'ont pas accès à ces soins-là. Donc, une fois de plus, on a un gouvernement qui veut aider à la fois les employés, les entreprises aussi. Je pense pas que ce soit le cas dans tous les pays. Donc, prenons aussi conscience de cette mesure et de toutes ces choses-là. Et arrêtons de nous plaindre un petit peu.
Ouais. Hein? Ça...
Moi, je dis souvent, les gens qui se plaignent n'arrivent qu'à une seule chose, à se rendre la vie plus compliquée. Voilà. Je pense que c'est bien. Puis à un moment donné, faut se battre aussi, quoi. Voilà, faut y aller au mastic. Hein.
Ce qu'on va faire, c'est marquer une pause. On parlait des pompiers solidaires. Vous avez un groupe dont on parlera peut-être tout à l'heure.
J'espère.
Quand vous gagnez un petit peu d'argent, ça va, pompiers solidaires.
Quand je fais un concert, on m'a demandé il y a pas longtemps encore faire un petit concert. Alors moi, je veux absolument pas de cachet. Par contre, s'il y a effectivement de l'argent à verser, c'est pour l'association. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vais remettre le chèque. À l'association, on avait fait un festival qui s'appelle Bouche à Bouche, qui est un festival à Paris, qui a été reporté à Bordeaux, et il y a eu un peu de reste, disons, sur les sommes qui étaient versées pour les repas. Et je dis voilà, on va faire un chèque pour les pompiers solidaires.
Eh ben génial, on les embrasse, les pompiers, et notamment évidemment les pompiers solidaires. On va marquer une courte pause, et puis dans un instant, parler de vous, Philippe Etchebest, de votre carrière, de votre passion. Du restaurant, mais pas que. À tout de suite.
Philippe Etchebest est l'invité du journal inattendu sur RTL.
The long and winding road.
Allez, les Beatles, le choix de Philippe Etchebest. D'abord parce que vous adorez les Beatles.
J'adore les Beatles.
Ouais, c'est de tout le temps, depuis que vous êtes gamin.
Rien acheté. Ouais, rien acheté. J'écoutais encore là, l'autre fois dans la voiture. Là, je me suis fait le double album blanc, le White Album, qui est juste magnifique.
Vous avez des enfants, des grands garçons, ils écoutent aussi? Oui, ils vous disent, c'est de la musique de vieux, ça.
Oscar, lui, non, pas trop. Mais ce qui est très drôle, et c'est l'anecdote de cette chanson, en fait, c'est quand on a adopté notre enfant.
Oui.
Quand je suis rentré dans le dortoir où il y avait les petits bébés. Et en fond de musique, il y avait justement The Long and Winding Road en version philharmonique. Et
cette chanson, vous pensez à Oscar? Ouais, on pense à lui évidemment très fort, le petit Oscar. La route a été longue et sinueuse pour vous?
Oui, sinueuse bien sûr, et c'est ce qui construit, je veux dire, un homme ou une femme, je veux dire, d'avoir un parcours comme ça où rien n'est droit. Hein. Il faut une fois de plus, il faut se battre pour y arriver. Il faut montrer de la détermination à chaque fois, et c'est comme ça qu'on y arrive d'ailleurs.
Y compris dans la vie privée, par exemple, l'adoption, c'est un combat.
C'est un vrai combat, mais c'est un combat de 5 ans. Et là, je tire un grand coup de chapeau à mon épouse qui a géré ça, surtout administratif, d'une main, d'une douceur incroyable, parce que je n'aurais pas supporté. Et non, c'est un vrai parcours. parcours du combattant est vraiment, quand on arrive au bouffe, c'est une belle satisfaction finalement.
Mmh. Allez, on va en cuisine maintenant parce que certains y ont vécu un vrai cauchemar.
Ouais ! T'as entendu ou merde ? Hé !
Oui ?
Putain, réponds, bordel ! Là, c'est quoi ? Ça va commencer à m'agacer là maintenant.
Mais... ça me fout le moral à zéro, moi. Et jusqu'où tu vas aller comme ça ?
Je vais pas aller bien loin. Hein.
Non, mais qui s'occupe de quoi ici ?
Non, mais t'as de la merde dans les yeux, quoi. Pour toi, ce bac est propre.
Est-ce que vous êtes pas dit à mon nez ? Putain, il va venir ici, il va m'en mettre une.
Ah oui, oui, absolument.
Réveille-toi ! C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère ? Ça fait comment ? Tu peux me montrer, là, si je fais une connerie, là ? Allez ! Engueule-moi, j'ai fait une connerie !
Mais c'est pas bien.
Oh ! Allez !
C'est pas bien, fallait pas le faire.
Oh, putain !
C'est pas bien.
Oh, du coup. Tu es inexistant. Droit dans le mur.
Droit dans le mur, ouais. Cauchemar en cuisine.
Vous, c'est vrai que la caricature aussi, c'est le chef qui dit, qui gueule, ouais. machin.
C'est tentant,
Ouais. Bien sûr, c'est facile ouais. dans l'absolu, mais il y a toujours une raison derrière, en fait. C'est de faire sortir les gens un peu de leur truc, là, qui prennent conscience. C'est l'électrochoc. Donc c'est vrai que je pousse au maximum pour qu'il y ait une réaction en face.
Mais là, vous n'en aviez pas, réagisse. Par exemple.
Ah non, là, il n'y en a pas. C'est terrible. Ouais. Quand ça ne réagit pas, c'est affreux. Pourtant, j'essaie de pousser, j'essaie d'aller loin, même d'exagérer parfois. Mais c'est voulu, ouais. c'est volontaire, pour que les personnes en face de moi, putain,
pour les pousser dans leur retranchement.
Voilà, c'est ça.
À la limite, vous aimeriez de temps en temps qu'il y en ait un qui se lève et qui veuille vous en coller une.
Mais on va pas aller jusque-là quand même. Mais il faut qu'il y ait, à un moment donné, un moment de rébellion pour que. Et puis moi, je puisse me nourrir de ça.
Bien sûr.
Mais j'ai besoin de ça pour argumenter derrière. Ouais. Mais en règle générale, ça marche. J'en viens encore d'un cauchemar là qui est pas mal, mais avec des gens qui sont extrêmement touchés. Touchant, oui. toujours, mais c'est pas une partie, c'est pas le moment le plus facile en fait de faire ça. Hein. C'est vraiment très compliqué, mais c'est nécessaire.
On se dit toujours, on croit toujours qu'il y a une part de mise en scène.
Alors déjà, moi je ne connais pas les restaurants, je ne veux pas savoir où je vais et je ne veux pas connaître les gens avant. On met le micro le lundi matin quand j'arrive, on me dit voilà, il y a Amanda, il y a Thierry et il y a Jean-Pierre, ils ont ce restaurant là, ça va mal pour eux. Bon, là, voilà, t'attaques, je rentre. Analyse, la carte, machin, je goûte. Et ça se passe comme ça à chaque fois.
Ça se passe comme on
le
voit.
Il y a une chronologie, effectivement, qui est identique à peu près. Mmh. Mais les histoires, elles sont différentes parce que les gens sont différents. Mmh. Et après, c'est moi qui fais l'analyse de ce qui se passe et comment on doit amener, justement, à aller plus loin et
trouver
la solution.
Vous avez vu des choses inimaginables.
Ah oui, j'ai vu des choses incroyables.
Oui. J'ai vu passer du saumon périmé de deux mois.
Je ne sais pas comment. J'ai subi des choses assez compliquées, assez dures. Et des fois même, j'anticipais. Je dis putain, c'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis toujours là. Mmh. Et ce qui est le plus important finalement dans ces aventures de cauchemars en cuisine, c'est les histoires humaines. Mmh. Et ça me touche vraiment beaucoup. Et j'en ai eu de très très fortes, très très fortes.
Et alors, j'imagine que l'ambiance n'est pas la même dans vos cuisines. Je pense à votre restaurant bordelais, enfin les deux d'ailleurs, du Grand Théâtre.
Rien à voir. Et je vous dis un truc, c'est que les gens qui mangent à la table d'hôte, la table étoilée en cuisine, ils sont même surpris du calme qui règne dans la cuisine. Ils disent, on n'a jamais vu ça. Les gens sont calmes, il n'y a pas un bruit, ils se parlent, chacun sait ce qu'il a à faire. Je dis, ouais, c'est ça, mais c'est un métier. Après, moi, les gens, je les choisis et je les forme. Ouais. Cauchemar en cuisine, je n'ai pas choisi les gens. On me demande de les aider parce que ça ne va pas. Ben, je vais les aider. Mais bon, effectivement, ça peut paraître un peu violent. Mais après, moi, dans mes cuisines, j'ai choisi tous mes collaborateurs et je les ai formés.
Et c'est calme et on n'entend pas le chef Etchebest
Absolument pas. Absolument pas.
On a une question de Patrick Poivre d'Arvor qui était à votre place ici même samedi dernier. Il a cette question pour vous.
Bonjour Philippe Etchebest, c'est Patrick Poivre d'Arvor. On ne se connaît pas beaucoup d'ailleurs, à vrai dire, mais ce que je vois de vous me plaît beaucoup. Voilà. Et ce que je goûte de vous aussi me plaît beaucoup, et notamment au Grand Théâtre de Bordeaux. Et je voulais savoir justement si ça vous arrivait, parce que j'aime beaucoup ce lieu, quand même de pouvoir aller voir des spectacles. Il y a de très beaux opéras là-bas, et est-ce que vous aimez l'opéra ? Est-ce qu'on peut aimer et l'opéra et la table telle que vous savez la servir ? Voilà.
Et le rock.
Absolument, mais on a la chance justement de pouvoir assister aux avant-premières des spectacles du Grand Théâtre, donc ça c'est génial. Alors faut savoir juste un truc, c'est que le quatrième mur, le nom qui a été donné à la brasserie, a un rapport avec le Grand Théâtre, il y a un lien. C'est Diderot qui disait à ses comédiens, imaginez dans un théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, jouez comme si la toile ne se levait pas. C'est la définition du quatrième mur.
Ah c'est beau ça, donc effectivement il y a deux restaurants, il y a le quatrième mur et il est à la brasserie.
Table d'hôte, en bas, étoilée, en cuisine, Première table d'hôte étoilée au monde, voilà. Dans ce cas de figure, puisqu'on est dans une brasserie.
Avant de marquer une pause et de vous faire une petite surprise, une réplique que vous adorez, Benoît Poulvorde, vous voyez. Benoît Poulvorde, comme on l'aime, dans ses œuvres, dans Podium.
C'est pas le conseiller clientèle qui vous parle, Dieu. C'est l'artiste. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître.
Et il la connaît par cœur, cette
réplique. C'est énorme.
Allez, à tout de suite.
Philippe Etchebest est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Philippe Etchebest, vous serez celui qui a fait jouer Detcha Mandela sur RTL à 13h26.
Et je suis vachement fier parce que c'est un super groupe bordelais que j'ai rencontré il y a 3 ans. Ils jouaient en avant-première de NTM.
Ils ont fait la première partie des Insus l'été dernier au Stade de France.
Exactement. Ouais. Et ils ont fait faire, alors très modestement, la première partie de notre concert le 21 juin parce que je les ai connus comme ça. Et aujourd'hui, Nico, le chanteur, il va chanter avec nous sur la prochaine fête de la musique. Et moi, je prends des cours de temps en temps avec JB, le batteur, qui est un jeune mec incroyable. Et voilà, ce sont 3 jeunes super. Et ils font de la super musique.
Et à la basse, comment s'appelle-t-il à la basse?
C'est Nico en fait qui est à la basse. C'est le chanteur. Il y a Jérémy à la guitare et il y a JB à la batterie.
Voilà. Et PH, il est où, PH?
Ah, PH! Non, PH, il joue dans mon groupe.
Ah ouais, c'est ça. Parce que là, on parlait de Detcha Mandela, mais moi, je parlais de Chef and the Gang.
Il y a PH. Il y a PH, il y a Thomas, il y a Randy, il y a Guillaume à la guitare, il y a moi. Et on a même Alex. Ouais. Alex Jaffré, qui est chroniqueur sur Télématin. Et qui joue avec nous au piano.
C'est un vrai groupe. Un vrai groupe.
Un groupe de potes.
Un groupe de potes.
On s'amuse, voilà.
Bonjour PH, Pierre-Henri Thibault.
Ah PH.
Ouais, salut Philippe.
Comment il va?
Eh ben ça va bien, j'étais en
Tu sais qu'on répète le 19, hein?
Oui, je sais, j'étais en train de bosser.
Ouais, t'as intérêt.
Il est comment le chef à la batterie, Pierre-Henri Thibault? Parce que basse, batterie, en plus, franchement, faut que vous soyez vraiment en phase.
Ah oui. Ensemble. Vous voulez la vraie version ou la fausse version?
La vraie version.
Ouais, la vraie version, je trouve vraiment super. J'adore. C'est vraiment super. On est très complices sur scène. On se regarde bien les yeux dans les yeux. Et puis, je suis fixé toujours sur sa grosse caisse.
Tiens, on écoute un bout. Chef and the Gang. Alors ça faut juste expliquer, on entend là vous jouez Highway to Hell de la CDC, vous êtes devant plusieurs milliers de personnes, devant votre restaurant,
devant le restaurant.
À Bordeaux lors
Savoir que c'est parti en 2017, on dit rien à personne, on va monter la scène, on va parler à la mairie bien sûr, puis voilà on va jouer, sauf qu'on s'est retrouvé quand même devant 4000 personnes, tu te rappelles PH, le premier premier concert, putain, le deuxième il y en avait 5000 et puis le dernier 7000, donc après c'est plus un secret pour personne maintenant, c'est plus une surprise, donc le prochain on va le faire vraiment d'une autre manière, mais c'est toujours un vrai moment de plaisir. Il y a beaucoup de travail en amont, c'est vrai qu'on répète beaucoup indépendamment et ensemble, mais c'est vraiment un vrai kiff.
Bon, bah vous allez vous retrouver bientôt avec PH alors.
Mais le 19 déjà, on répète.
Tu
sais quel morceau on répète, hein?
Oui, bien sûr.
One Lotta Love, Welcome to the Jungle, et quoi? The Pretender, je crois.
C'est
bon. Bon, bah voilà. On a la setlist en plus. Merci beaucoup, Pierre-Henri Thibault. Et puis alors.
Salut PH.
Merci beaucoup. Salut PH.
Merci PE alors. Hein.
Oui, voilà,
merci,
PE.
Philippe Etchebest. Philippe Etchebest qui était l'invité de ce journal inattendu et qui sera mercredi, évidemment, comme tous les mercredis, dans Top Chef sur M6. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et dans un instant sur RTL, confidentiel consacré à Hugh Hefner.